et je vais donc faire ma présentation sur l'approche européenne. Alors, on m'a demandé de faire cette présentation, on peut commencer le timing, comme étant le président élu de l'Association européenne de psychiatrie. Donc, je travaille à l'EPA, l'Association of European Psychiatry, depuis maintenant une quinzaine d'années comme trésorier, rédacteur en chef, et maintenant pour en prendre la présidence. Donc, je la connais particulièrement bien, ce qui veut dire que depuis 15 ans, je baigne dans le milieu de la psychiatrie européenne, ce qui apporte à des intérêts non négligeables dans l'organisation de la compréhension des spécialités françaises. 40 secondes, s'il vous plaît. Je vais juste aller chercher le... l'appareil pour changer les diapositives. Donc, alors voilà l'EPA. Donc, je ne vais pas aller rapidement, mais juste nous représentons 80 000 psychiatres. L'intérêt, c'est que nous pouvons les contacter à travers les listings et les différents congrès que nous organisons, ce qui nous permet d'avoir des connaissances sur la pratique différente dans les pays européens assez extraordinaire. L'autre aspect étant que maintenant, l'EPA est une association de psychiatres, mais aussi d'associations nationales. Et donc, nous avons aussi la connaissance de chacun des réseaux à l'intérieur de chacun des pays. Alors, la première chose, quand on veut parler de la psychiatrie en Europe, c'est d'abord de dire combien d'argent on y met pour essayer d'en comprendre les spécificités. La France, on est les champions du monde de la critique et de s'auto-infliger des critiques continuelles. Mais finalement, comme vous le voyez là, la France fait partie, grâce à sa couverture sociale assez incroyable, de celle qui investit beaucoup dans son système de soins en général. On est derrière les Américains qui sont largement devant et finalement plutôt en tête des pays européens. Là aussi, un peu plus compliqué, c'est quand on regarde sur la morbidité, la prévalence des troubles et finalement de combien on peut l'attribuer aux pathologies mentales. Comme vous le voyez ici dans les différents pays, le coût de la maladie mentale est beaucoup plus important par rapport au coût de la santé en général aux États-Unis et en Australie, donc des pays qui investissent énormément pour les soins pour la maladie mentale, et un peu moins importante pour l'Europe, et finalement relativement homogène, avec quand même une Europe un peu cassée en deux, avec l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est étant avec un niveau d'investissement assez catastrophique sur les soins de la maladie mentale. Alors, on est une association de psychiatres, donc bien entendu, on s'intéresse à la densité des psychiatres. Vous savez peut-être que la France est un des champions du monde du nombre de psychiatres, pas tellement en densité, on n'est que quatrième, maintenant même la Suisse est repassée devant. Mais par contre, en nombre de psychiatres, on a entre 10 et 14 000 psychiatres, ce qui est une somme absolument considérable. On est probablement le pays d'Europe qui a le plus de psychiatres en Europe. Et donc, clairement, ce n'est pas de ce niveau-là que se trouvent les limites de notre système de soins. La particularité, c'est que les psychiatres n'ont pas du tout les mêmes statuts, les mêmes compétences au niveau de prescription, de prise en charge et de salaire dans les différents pays. Et on a fait une enquête récemment qui a été publiée dans notre journal, European Psychiatry, montrant qu'en fait, l'essentiel des psychiatres de l'Europe de l'Est, là où justement il y a le moins de psychiatres, là où la moyenne du salaire des psychiatres est à peu près égale à un dixième du revenu des psychiatres français, et bien entendu, quand ils finissent, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est migrer. Et ils migrent où? Maintenant, énormément sur Hollande, Suède et Danemark, un peu en Allemagne, un peu en France, mais surtout dans ces pays nordiques qui ont un manque de psychiatres et qui sont tout à fait allant chercher ces psychiatres des pays de l'Est avec des temps de formation des langues inclus dans les packages qui les amènent à avoir un brain drain, c'est-à-dire vraiment une fuite des cerveaux de l'Europe de l'Est qui est un vrai problème de santé pour nous au niveau européen, mais bien entendu qui ne touche pas tellement la France. Ce qui est intéressant aussi, c'est finalement de voir quelles sont nos compétences. Alors c'est compliqué de mesurer les compétences des systèmes de soins, et donc j'aime bien cette représentation qui essaie de trouver une balance entre la prévalence, qui bien entendu varie d'un pays à l'autre, et la mortalité suicidaire, qui pour nous est l'incarnation de l'échec dans la prise en charge, même si bien entendu ce sont des comportements polyfactoriels. Et on voit que finalement il y a une espèce de balance dans les différents pays, et la France reste dans une certaine médiane, avec plutôt celle qui a des prévalences relativement élevées, mais finalement pas associée à une augmentation trop considérable du risque suicidaire, grâce probablement aux modalités de prise en charge. Vous y voyez la Russie, dont je vous rappelle que le premier facteur très largement explicatif de mortalité suicidaire, c'est la vodka. C'est pas une blague. C'est la première cause de mortalité entre 15 et 30 ans dans tous les pays de Russie et de l'ex-Russie. Dans cette approche que nous avons dans les soins que nous fournissons, c'est important de savoir aussi, si on veut en voir la qualité, quelle est notre capacité à répondre à la demande. Et dans ce travail, ce qui a été fait, c'est juste de regarder le temps de délai entre je suis nécessitant un soin, je n'ai pas forcément tout de suite une réponse, et dans les réponses bleues qui sont très rapides et les réponses rouges qui sont absentes ou très différées. Alors si vous avez besoin d'une prescription, en général, vous attendez pas trop. En France, on est capable de répondre assez vite. Par contre, si vous avez besoin d'une psychothérapie, les délais d'attente vont être beaucoup plus longs. Et donc c'est intéressant parce que dans les modèles actuels où on est en train de dire le traitement, la molécule, la drogue, quelle horreur, et où la vraie réponse thérapeutique universelle c'est la psychothérapie, ce qui est une simplification pour le moins abusive, eh bien finalement, il faudrait d'abord commencer à se dire, est-ce que nous sommes capables de répondre à cette demande ? On sait très bien, hein, quand vous avez un patient psychotique pour lequel les thérapies cognitivo comportementales sont extrêmement efficaces, qui dans les psychologues qui sont abordables, pour lesquels vous avez des remboursements, ou en tout cas une prise en charge pas trop chère, et qui ont un peu de temps d'accès, de délai pas trop long avant d'avoir accès aux patients, bon, c'est très bien, c'est très difficile à trouver. Donc ça fait partie des choses qui sont importantes, et finalement, comme vous le voyez, c'est plutôt pour les patients les plus sévères que les attentes sont les plus importantes, c'est quand même particulièrement inadapté dans notre organisation. Donc certes, en France, on a beaucoup de soins, mais ils sont aussi parfois un peu limités. Alors l'autre pan sur lequel vous êtes plus directement impliqué, c'est bien entendu le nombre de lits psychiatriques disponibles en France. Là aussi, hein, la France est plutôt parmi les pays les plus importants. Le champion du monde à droite, là, c'est le Japon. Mais vous savez peut-être que la durée de séjour moyen pour une dépression, c'est 1 an. Donc bien entendu, les lits d'hospitalisation, ils sont un peu longs. J'exagère, mais à peine. Hein. Dans les autres, vous voyez qu'on est plutôt dans la moyenne européenne et plutôt parmi les plus élevés. Je me suis permis de mettre en rouge les États-Unis, hein, le modèle, en général, le Graal que tout le monde cherche à comparer. Il n'y a pas de lit en psychiatrie aux États-Unis. La durée moyenne de séjour, ce n'est pas 1 an comme au Japon, c'est 3 jours. Et aller traiter un épisode délirant, aigu, déstabilisé, intoxiqué chez un patient schizophrène en 3 jours, ben vous n'y arrivez pas. Et ils ont ce qu'ils appellent le revolving door syndrome, c'est-à-dire que ces patients-là, on les traite pendant 3 jours, on les calme, on les bourre de médicaments, ils sortent, et bien entendu, ils reviennent 15 jours plus tard. Donc il y a peut-être un juste milieu entre les deux, mais c'est particulièrement important à repérer. Alors dans cette offre de soins, c'est important de voir aussi la capacité au niveau de la densité. Vous voyez qu'elle est relativement stable par rapport à l'Angleterre, un peu meilleure même qu'en Allemagne, qui a un très bon système de soins, et par contre largement plus en Italie. Vous savez peut-être que le mouvement antipsychiatrique vient d'Italie, et il a amené à une fermeture d'un nombre de lits incroyable, qui a amené d'ailleurs à une extraordinaire augmentation des homelessness, des patients qui sont SDF, dont la plupart là-dedans sont des pathologies, surtout des patients gravement malades, de maladies mentales. Dans la part de l'hospitalisation en fonction de notre PIB, ce qui est toujours intéressant aussi, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens, je parle là surtout d'abord par rapport à l'Italie qui a un peu plus de dettes encore que nous, eh bien vous voyez que la France a plutôt un investissement plutôt dans le haut, hein, relativement élevé par rapport à son PIB. Donc c'est compliqué là aussi de dire qu'on n'investit pas assez au niveau du PIB, puisque finalement on est à peu près dans les élèves moyens de l'Europe, ce qui ne veut pas dire que tous les pays européens ne devraient pas faire des progrès. On a beaucoup parlé aujourd'hui des CMP et de cet extraordinaire avantage que nous avons en France de l'organisation en secteur en psychiatrie. C'est clairement un avantage, hein, quand vous voyez le nombre de centres de santé mentale, on est champion du monde en Europe, pour une bonne raison, c'est que nous avons effectivement les CMP et les CMPP qui sont un réseau dense qui fait l'admiration de tous. Ça n'a pas que des avantages. Puisqu'on l'a vu, finalement, ces CMP et CMPP ne sont pas faits comme des systèmes de détection précoce. Et même s'il y a peut-être un potentiel derrière, ce n'est pas encore le cas. Et on reste là, par contre, avec un certain retard dans plusieurs autres activités, et notamment dans le nombre de places d'hébergement extra-hospitalier par rapport à l'Angleterre, qui a très peu de places institutionnelles, qui a beaucoup d'activités, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des manières de trouver des situations, des solutions plus simples et plus rapides pour les patients, et qui, du coup, permet d'avoir aussi ce type d'hébergement intermédiaire de manière beaucoup plus performante que ce qu'on a en France. Alors attention, parce que le système de soins, il faut faire attention non seulement à ce qu'il soit offert pour tous, mais surtout pour ceux qui en ont le plus besoin. Et là-dessus, la vie est très injuste, puisque c'est essentiellement les patients les plus vulnérables, les plus socialement instables, qui sont ceux qui ont le moins accès aux soins, ce qui est quand même pour le moins gênant. Donc, par exemple, hein, on a le système de prise en charge pour les patients qui sont... Pour les patients qui ont un risque suicidaire lié à l'alcool très élevé, hein, 70%, on est un pays vinicole, et donc on en paie le prix au niveau de l'attribution des suicides par rapport à l'alcool, avec un taux de suicide à 15, qui est donc un des plus hauts d'Europe, alors que pourtant notre couverture est bonne. Donc là aussi, hein, on ne peut pas se permettre dans un satisfacit, étant donné ces résultats, malgré aussi une augmentation du pourcentage attribué du PIB à la maladie mentale, pour lesquels c'est compliqué de dire qu'on n'investit pas assez. Alors, la dépression dans cette injustice, elle est claire, hein. Plus vous êtes dans un milieu social défavorisé, plus vous êtes à risque de dépression. C'est injuste, mais c'est la réalité. Donc, c'est particulièrement important que nos systèmes de soins soient capables de faire face à ces injustices. Si vous regardez ça, non pas pour la maladie mentale de l'adulte, mais de l'enfant, c'est encore plus important. Et donc, dans ce système où on a du mal à détecter les patients, on a du mal à faire venir les patients dans les systèmes de soins, c'est encore plus vrai pour la pédopsychiatrie. Et donc, ça requiert clairement d'avoir des prises en charge très spécifiques. Ici, ce n'est plus le niveau éducatif, c'est le niveau de salaire moyen. Plus il est faible, moins vous avez accès aux soins. Une très jolie étude de Trotman qui a repris le coût des troubles mentaux et qui les a repris sur plusieurs manières de les évaluer. Alors, d'abord, sur les coûts directs et indirects, hein, pour rappeler, mais on est tous ici convaincus, mais il ne faut pas hésiter à le rappeler à nos collègues qui travaillent dans d'autres types de spécialités, que les troubles mentaux sont de très loin les plus chers en coût de la vie quotidienne, de l'investissement de soins, de l'investissement de la santé, où on dépasse très largement la cardiologie, y compris les cancers, qui sont à peine la moitié de ce que représentent les coûts de la santé mentale. C'est vrai aussi sur l'impact sur la croissance, dans le sens que l'impact que ça peut avoir sur l'inhibition à une augmentation de la croissance est suffisamment forte à cause de l'augmentation de la dette, et que le premier leader dans ce registre de frein à la croissance, ce sont les maladies mentales. Et c'est vrai aussi dans un concept un tout petit peu statistique, qui est la valeur des années de vie, où finalement, si on attribue non pas de l'argent, mais une valeur fictive correspondant à chacune des années perdues pour une raison spécifique, et bien cette raison spécifique, la première qui donne du sens pour les patients, c'est celle des maladies mentales. Donc il n'y a vraiment aucun doute, quelle que soit la manière dont on tourne le problème, que la maladie mentale est ce qui drive le plus d'effets. Je ne me suis pas pu m'empêcher de reprendre cette image publiée dans une lay press des États-Unis pour dire que une étude récente avait fait une évaluation en Europe pour dire que les centres en Europe ne fonctionnaient pas suffisamment bien et ne remplissaient pas les critères de bonne conduite. Et si vous regardez en bas, il y a marqué un lit psychiatrique dans un centre de soins de jour en France. Alors d'abord, j'adore la notion de lit dans un centre de jour. Et on voit bien que c'est en plus une chambre d'isolement avec un lit qui est cloué au sol. Donc c'est assez facile les caricatures, mais il ne faut pas oublier qu'on a un Trump effect qui continue à avoir des effets délétères. Tout ça, c'est intéressant, mais pour progresser, bien sûr, il faut avancer dans tous ces différents effets. Mais là aussi, la recherche est attendue comme étant une manière d'avancer tout ça. Est-ce que la France fait suffisamment d'efforts pour la recherche? Elle en fait. L'investissement public de la France n'est pas du tout négligeable, contrairement à ce qu'on passe notre temps à dire, parce que c'est vrai qu'on est toujours dans la recherche d'un investissement plus important, et il n'y a guère que l'Angleterre qui investit beaucoup plus que nous. La grosse différence, c'est beaucoup dans les dons, les charities, qui sont extrêmement prévalents à l'étranger et qui existent assez peu en France et qui pourtant finissent au total à donner des vraies sommes d'argent de manière différente. Et peut-être qu'il est temps qu'on a en France, on apprenne à faire ça, puisque c'est compliqué d'arriver à augmenter nos budgets de santé. Juste pour donner les résultats aussi par rapport à l'efficacité dans les différents pays européens. Bon, Harvard est l'école numéro un. Ça, c'est un nombre de publications, de travaux et d'officialisation, d'objectivation de l'efficacité, on va dire, purement scientifique. Donc, Harvard soit première, on le comprend bien. Quand on regarde dans les différents classements européens, on a ensuite quatre anglais qui sont dans les 15 premiers, le King's College, Oxford, Cambridge, donc des universités effectivement très, très réputées, ces deux universités différentes dans King's College. Et donc derrière, les Français arrivent en 113e position. J'avoue que certes, c'est ma fac, donc j'en suis très fier d'être dans les premiers en France, mais quand on est 113e, on n'a pas grand raison de se réjouir, alors que pourtant, Dieu sait que Descartes, les moyens sont importants, et donc vraiment, on voit combien on a un décalage majeur par rapport aux autres pays européens, y compris nos futurs non-européens que sont les Anglais. Little joke for my father who is English. L'avenir de la psychiatrie, c'est le fait que les soins seront par la suite dans une révolution actuelle qui doit être absolument anticipée pour ne pas rater les virages des progrès. Les soins seront autonomes et contrôlés par les patients. Je pense qu'on l'a vu plein de fois aujourd'hui, donc je suis ravi de l'avoir écrit là en disant c'est probablement une perspective d'avenir, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Il est d'ailleurs grand temps que les patients reprennent en main leur propre avenir et que nous soyons sollicités par eux et non pas comme étant dirigeants leur vie ou leur panathénédie. Ils vont être spécifiques du contexte social et tant mieux, il est grand temps de prendre en considération le fait que les patients les plus graves, qui sont les plus défavorisés, sont ceux qui ont le moins accès aux soins, et ça, c'est pas supportable. Et donc, organiser et personnaliser ces soins en fonction des vulnérabilités individuelles est la manière d'y arriver. Ils vont être aspécifiques du diagnostic. les diagnostics sont en train d'être transformés. On sait que rien n'est spécifique, tout se recouvre, et pour une bonne raison, c'est que les syndromes psychiatriques ne sont que des représentations cliniques bien utiles pour qu'on puisse parler de nos patients. Mais à chaque fois qu'on avance un peu plus dans les mécanismes neurobiologiques impliqués, on se rend compte qu'en fait, ils sont complètement communs à beaucoup d'entre eux. Par exemple, la schizophrénie et le bipolaire, au niveau génétique, sont plus identiques que différentes. C'est compliqué à comprendre, mais en même temps, maintenant, grâce au GWAS, on est capable de le représenter. Et donc, c'est important aussi de savoir sortir de cette notion de diagnostic. Ils seront ensuite personnalisés, c'est-à-dire qu'on espère arriver à terme à être non pas dans le soin de la maladie, mais des facteurs de risque afin d'être dans le préventif. Et ils seront virtuels. Et là aussi, je suis ravi d'avoir souligné ça dès le départ autour de l'intelligence artificielle, puisque clairement, on va avoir une révolution de nos modalités de prise en charge qui va nous permettre peut-être de réduire l'importance des longs séjours hospitaliers traumatisants. Et pour ça, plus tôt on le fait, mieux c'est. Je vais juste terminer en disant que l'EPA participe dans plusieurs moyens pour essayer d'avancer dans ces différentes perspectives. Je ne vais pas en faire la liste pour des raisons de timing de la présentation. Je ne vais pas avoir engueulé les 15 orateurs précédents et moi être avec 10 minutes de retard. Ça serait quand même pas très sympa de ma part. Mais voilà les différentes activités que l'EPA peut avoir et les priorités qu'on a pu proposer. Je vous recommande sinon de venir nous rejoindre au congrès de psychiatrie de l'EPA à Varsovie. C'est la première fois où nous faisons notre congrès dans les pays de l'Est, puisqu'on pense que c'est particulièrement important d'agir à ce niveau-là. Merci pour votre attention.